Est-on ce soir face à un moment historique en Chine? Image rarissime, image de ces manifestations au départ contre la politique zéro Covid, ultra stricte du pouvoir chinois. Manifestations à Shanghai, à Pékin, à Wuhan, à Canton notamment. Vous allez voir cette carte qui s'allume aux quatre coins du pays. Mais jusqu'où cette colère peut-elle aller alors que certains manifestants ont osé défier le pouvoir et réclamer le départ du président Xi Jinping? Est-on face à un moment historique? Bonsoir Baptiste Falvoz. Merci Bonsoir. Beaucoup d'être avec nous, j'espère que je prononce bien votre nom.
Ah, parfaitement.
Tout va bien, rédacteur en chef à France 24, ancien correspondant en Chine pendant combien de temps?
7 ans, 2009 à 2016.
Pendant 7 ans. Je voudrais qu'on revienne au point de départ de ce que l'on voit là et de ce à quoi on assiste depuis quelques jours. D'abord cet immeuble en feu à Urumqi, capitale de la province du Xinjiang. 10 morts, les habitants sur place expliquent que ce bilan, ces victimes, sont dues notamment aux règles absurdes anti-Covid. C'est le point de départ? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que, alors que depuis 3 ans, le pays est confiné, que depuis 3 ans, les Chinois ont un régime ultra strict, pourquoi est-ce que ça ne passe pas?
Alors, il faut savoir déjà qu'il y a eu des manifestations comme avant, mais qui étaient des manifestations dans des villes qui étaient plutôt peuplées de travailleurs migrants, qui sont particulièrement vulnérables face à justement cette politique du zéro Covid et ces restrictions. Là, à Urumqi, on a affaire effectivement à l'incendie d'un immeuble qui fait au moins 10 morts. Et très rapidement, et d'ailleurs on peut se poser la question aussi, comment cette information a pu circuler aussi facilement dans un régime qui généralement fait peser une chape de plomb totale sur son internet? Très rapidement, on a vu émerger des théories selon lesquelles les mesures de restriction drastiques à Urumqi, on parle d'une ville qui est quasiment coupée du monde depuis 100 jours, qui est vraiment, c'est le Grand Ouest chinois, c'est assez loin, et c'est une ville qui est littéralement quadrillée. Il y a eu donc ces théories selon lesquelles les mesures de restriction avaient limité l'arrivée des secours dans l'immeuble, et que ça avait donc creusé ces pertes, et donc fait ce bilan humain terrible. Et donc on a vu ces manifestations au départ de solidarité, dans une ville comme Shanghai. Pourquoi Shanghai? C'est une ville qui a subi un très lourd tribut de cette politique zéro Covid, notamment au printemps dernier, avec là aussi un confinement drastique. Et donc, ça a forcément eu une résonance, un écho important pour les Shanghaïens. Ça a commencé par des dépôts de fleurs, notamment rue d'Urumqi, justement, du nom de cette ville où il y a eu l'incendie, qui se sont transformés vers des slogans un peu plus politiques, des rassemblements qui étaient spontanés, mais avec des slogans qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir en Chine. Et ensuite, d'autres villes comme Pékin, Chengdu, Wuhan ont pris le relais dans la foulée.
Effectivement, on parlait d'Urumqi, j'ai bien compris qu'il faut dire Urumqi, j'ai oublié ce qu'avait dit tout à l'heure Elsa Vidal, Urumqi. Des habitants qui dénoncent l'absurdité des mesures anti-Covid. Je vous pose la question, absurde jusqu'où, Ulysse Gosset?
En fait, le régime chinois est pris à son propre piège. Il n'a pas voulu de vaccins occidentaux, alors que le vaccin chinois n'est pas vraiment efficace. Et donc, pour lutter contre le Covid, il n'y a qu'une seule solution, c'est le confinement. Le problème, c'est que le confinement dure depuis des mois et des mois et que certains quartiers, oui, depuis 3 ans, les Occidentaux partent parce qu'ils n'en peuvent plus. On est contrôlé le matin, le soir à son bureau, des tests en permanence, etc. Donc, le régime doit continuer parce qu'il n'y a pas d'autre solution sauf importer des vaccins. S'il relâche la pression, compte tenu de la montée du nombre de cas, eh bien, il y a un risque de pandémie très sérieux qui va menacer des villes entières et peut-être même toute la Chine. Donc, il ne peut pas reculer. Et aujourd'hui, il est pris au piège et il y a une réaction absolument, je dirais, saisissante de la part des habitants de Pékin, de Shanghai, de partout, Wuhan, de Wuhan, etc.
Wuhan,
et donc, la révolte sociale se transforme en révolte politique. Et c'est là le fait marquant, c'est que, en fait, les habitants n'en peuvent tellement plus qui n'hésite pas à critiquer le président chinois, l'empereur, qui jusqu'à présent ne supportait aucune critique, qui vient d'être à nouveau réélu dans son poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et qui a l'intention sans doute de rester, je dirais, empereur à vie. En tout cas, il a fait modifier la constitution. Le fait qu'aujourd'hui, quelques jours après sa réélection, on le critique avec autant de force et que ces vidéos soient reprises partout sur les réseaux sociaux chinois démontre qu'il y avait une exaspération et une frustration terrible de cette jeunesse chinoise, de ces classes moyennes qui se sont développées au cours des dernières décennies et qui a envie de vivre normalement, de voyager et qui ne le pouvait plus. Donc cette explosion, elle est à la fois incroyable parce que n'oublions pas que le virus est né en Chine. On ne sait pas exactement où, peut-être dans un laboratoire, peut-être pas. Mais en tout cas, le virus vient de la Chine. Et la Chine se retrouve aujourd'hui victime de son propre virus.
Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est ce qui explique peut-être pourquoi est-ce que les Chinois ont enduré ça pendant aussi longtemps, c'est que ce n'est pas toute la Chine qui se retrouve confinée à 100%. C'est qu'il y a un tournant, ça tourne. Par exemple, là, quand on est tout d'un coup sous confinement, on ne sait pas si c'est pour 3 jours, pour 3 semaines ou pour 1 mois, puis ça continue. Et puis on est en semi-confinement, on peut sortir encore dans le quartier, puis tout d'un coup, on ne peut plus sortir du tout. On vient vous fermer la porte, c'est là quand vous demandez quelle est l'absurdité.
Jusqu'où
tout d'un coup, s'il y a un certain nombre de cas, Baptiste, corrigez-moi.
Vous avez un système de code qui est extrêmement angoissant avec ses codes rouge, orange, vert.
Mais la question qu'on se posait, c'était au moment du confinement, justement, on s'est dit, la Chine, en fait, va se servir du Covid pour rendre le régime encore plus totalitaire. C'est ça, en fait, qui était surprenant. C'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'il y avait des codes, ces couleurs, on venait défoncer la porte de chez vous pour vous emmener, on voyait des chiens robots dans les rues qui vous interdisait de sortir. Mais il y a quand même un moment où on s'est dit, en fait, ce Covid est une opportunité aussi pour ce régime parce qu'il assoit son totalitarisme, le contrôle renforcé des populations à un point qu'on n'avait jamais vu, qui nous paraissait totalement lunaire. Et en fait, aujourd'hui, ça craque. C'est ce paradoxe-là qui est intéressant aussi.
Il y a un côté totalement dystopique. Alors, c'est très compliqué de juger, de jauger la population chinoise qui, dans toute sa diversité, c'est quand même 1,4 milliard d'habitants. Pardon, excusez-moi. Mais là, c'est pareil. On voit ces manifestations. Bon, il y a quelques centaines de personnes à chaque fois. Les groupes qui appellent à la démission de Xi Jinping, ce ne sont peut-être que des dizaines de personnes, mais déjà, d'un point de vue symbolique, c'est extrêmement... C'est rarissime, c'est une ligne rouge qu'on ne franchit pas d'ordinaire en Chine. Il y a juste une chose que je voudrais ajouter, la Chine s'est un peu piégée elle-même, c'est-à-dire qu'elle a fait aussi ce zéro Covid une victoire de son modèle contre le modèle de l'Occident, en disant, regardez, vous laissez mourir vos personnes âgées, vous faites du darwinisme social, notre modèle est le bon. Donc elle s'est un peu piégée. Aujourd'hui, c'est compliqué de se déjuger et de dire, bon, bah, finalement, c'était peut-être pas la méthode la plus idéale, on va peut-être revenir en arrière. Il y a une question de face qui est aussi très importante en Asie. Et puis, il y a aussi la question que vous évoquiez à l'instant de cette faible couverture vaccinale, notamment chez les personnes âgées, et le fait que la Chine ait refusé également le vaccin ARN messager parce qu'il est venu de l'Occident, parce que c'est une question de fierté nationale.
Un pays très vieux, en plus.
Et voilà.
La population vieillit beaucoup. Il y a une part de population âgée qui est plus importante.
Elle se trouve bloquée.
Il y a quelque chose que je trouve amusant aussi, c'est qu'après la chute du mur de Berlin, il y a eu ce fameux débat Fukuyama-Huntington. Est-ce que c'était la fin de l'histoire, la victoire des démocraties libérales ou pas. Et dans les 10 dernières années, on a eu tendance à dire qu'en fait, on se dirigeait vers un clash des civilisations, le retour du religieux, la Russie qui attaquait l'Ukraine, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit en Chine, pays totalitaire, pays autoritaire en tout cas, la population se révolte. En Iran, la même chose. Et la Russie est en train de se faire écraser avec les démocraties libérales qui soutiennent complètement l'Ukraine. Donc en fait, peut-être qu'on pourrait changer cette version, peut-être que le narratif est en train de changer, et qu'en fait, on a bel et bien la victoire des démocraties libérales avec la supériorité du modèle qui est en train de s'imposer au monde entier.
Et pour donner un exemple de ce que vous êtes en train de raconter, on va rester sur la Chine évidemment, vous soumettre... évidemment, vous l'avez dit, ils ne sont pas forcément très nombreux, mais on a entendu des manifestants, comme à Shanghai, ce que l'on va voir, réclamer le départ de Xi Jinping. Regardez. Elsa, ça c'est du jamais vu?
C'est du jamais vu, au moins depuis Tiananmen, alors qui était quand même d'une ampleur absolument supérieure. Mais là, on est au tout début du mouvement, on ne sait pas du tout s'il va coaguler, diffuser. Moi, je me demande vraiment si les autorités ne laissent pas non plus une soupape de sécurité à l'expression de l'exaspération pour voir si elle se calme et avant de décider du niveau de répression qu'il faut mettre en place. Bien sûr, ça me fait penser à l'Iran, ça me fait aussi penser à la Russie, à contrario, puisqu'il y a une absence de mobilisation aussi radicale en Russie. Mais d'un autre côté, on ne peut aussi que craindre la violence à laquelle tous ces manifestants sont en train de s'exposer. Je pense qu'ils ont tout à fait conscience des risques qu'ils prennent. La réponse va être extrêmement ferme. Et en même temps, je suis toujours extrêmement impressionnée par les actions de solidarité, les manifestants qui interpellent les policiers, qui essayent de négocier la relaxe après l'interpellation. Il y a un moment, en tout cas historique, très fort. Et le fait que tout cela semble avoir été déclenché par des images non filtrées de la Coupe du Monde est particulièrement ironique. qui aurait pu penser que ce sont ces images qui seraient des détonateurs?
On va reparler de ces images, effectivement, parce qu'elles elles ont peut-être changé pas mal de choses. Mais simplement, je posais la question au départ, est-ce que c'est un moment historique que vit la Chine? Et vous voyez la question qui est posée en bandeau, qui rejoint un peu ça. Est-ce que le président chinois est ébranlé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous répondez à cette question?
Celui qui peut faire des prédictions sur la Chine.
Sans prédiction. Mais simplement le fait avec les images que l'on vient de voir là.
Avec les images, c'est un moment inédit. C'est-à-dire, moi, ce qui me paraît être inédit, c'est l'ampleur du mouvement, le fait qu'il ait lieu dans plusieurs villes, qu'un phénomène local ait une résonance nationale, qu'il concerne peut-être aussi les classes sociales qui ne sont peut-être pas spécialement habituées à manifester. De là à dire que c'est le grand soir, je n'en sais absolument rien. En tout cas, c'est vrai que c'est un défi, peut-être le principal défi pour Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir.
La question, c'est de savoir comment est-ce que... Oui, Elsa ?
Je me demande dans quelle mesure, en fait, il n'y a pas... La seule solution pour Xi Jinping, ce n'est pas justement d'évoluer dans la question de la gestion du Covid, parce qu'autrement, il met quand même en danger la croissance et la prospérité. Et c'est quand même aussi le deal avec les Chinois, c'est que l'économie doit progresser, les générations doivent voir le futur ensoleillé.
Probablement, le régime va lâcher un peu de lest, il va relâcher la pression, il va permettre aux gens de se balader un peu plus, si j'ose dire.
Ça a commencé.
Mais... Voilà, et mais en maintenant une répression très forte, parce qu'il ne peut pas, l'empereur ne peut pas laisser le peuple décider à sa place. C'est l'empereur Xi Jinping qui décide et le peuple doit l'écouter et lui obéir. Mais l'empereur, parfois, peut faire preuve de magnanisme.
De mansuétude.
Et de mansuétude. Ça fait partie aussi de son rôle. Donc, on va voir certainement les prochains jours des mesures qui vont essayer d'apaiser la situation. Mais ce qui est extraordinaire par rapport à Tiananmen ou par rapport à la révolution culturelle, puisque finalement, on se souvient des Dazibao, d'ailleurs, Xi Jinping a lui-même été, son père et lui-même ont été des victimes de la révolution culturelle. Donc, il sait de quoi il parle. À Tiananmen, il y a eu une tentative de dialogue entre les autorités et les manifestants, les étudiants qui occupaient la place.
On va remettre quand même les images de Tiananmen. On va se souvenir, on est au printemps 1989, avec une révolte qui monte notamment au départ autour des étudiants.
Oui, c'était essentiellement des manifestations étudiantes. Ça a duré 50 jours avec l'occupation de la place. Je me souviens, j'étais à Tiananmen ce jour-là. Gorbatchev était en visite.
C'est toujours dans les bons coups.
Il était en visite officielle à Pékin. Et on avait ces scènes extraordinaires où les dirigeants chinois étaient au sommet de la cité interdite et regardaient avec des jumelles ce qui se passait sur la place. Gorbatchev est reparti et l'armée chinoise est intervenue. Ça a été un massacre. Il y a eu plusieurs milliers de morts. On parle jusqu'à 8 à 10 000 morts. Maintenant, c'est un tabou absolu. On en parle absolument pas.
C'est un scénario qui pourrait pas se reproduire aujourd'hui. Est-ce que ce scénario pourrait se reproduire, une répression aussi forte avec des chars ou
Je pense que le régime est extrêmement dur, extrêmement fort, et que dans le contexte actuel du nationalisme montant en Chine, sur Taïwan, sur la rivalité avec les Américains, je pense qu'il ne peut pas faire preuve de faiblesse. Le paradoxe, c'est que lorsqu'il a parlé avec le président américain au sommet du G20, on avait eu le sentiment qu'il y avait une volonté d'apaiser la tension entre la Chine et les États-Unis. Il est clair que ce qui se passe là va rendre les choses encore plus difficiles.
Juste une question, le parallèle avec Tiananmen, il est dans toutes les bouches et dans toutes les têtes et sur toutes les télés et dans tous les journaux depuis 2 jours maintenant. Est-ce que vous faites ce parallèle-là ?
Pas pour le moment, pas encore. Ce qui est intéressant sur Tiananmen, c'est que à cette époque, et vous l'avez justement très bien évoqué, il y a eu une ouverture quand même du régime qui a laissé parler les manifestants, qui leur a en quelque sorte tendu la main. Mais toujours avec cette logique, à l'époque c'est Deng Xiaoping, que trop d'ouverture, comme il y avait eu en URSS, allait amener la chute du régime. Et donc à un moment, il se s'est senti dépassé et il y a eu cette répression. Je pense que Xi Jinping, il est vraiment dans cette logique-là. Si on ouvre trop, de toute façon, on finit par en être victime. Donc il faut tuer dans l'œuf la contestation. Et je pense que les deux, en fait, sont possibles. Donc comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire ouverture. D'ailleurs, on le voit dans certaines villes, comme par hasard, depuis hier, il y a des villes qui annoncent des allègements. Alors ici, on n'est plus obligé de faire des tests quotidiens. Ici, les portes qui donnent, vous savez, qui bloquaient l'accès au quartier résidentiel sous confinement, sont enlevés. Ici, on met, on veut faire des exemples, on veut faire des tests, des zones tests, sans test PCR, c'est le cas de le dire, sans test PCR. Et donc voilà. Et en même temps, à côté de ça, on voit des arrestations, donc qui ont commencé hier, des arrestations qui ont lieu en coulisses, parce que devant les caméras, ça fait toujours mauvais effet, mais en coulisses, c'est là où en général ça se passe. Il va y avoir des arrestations de gens qui relaient aussi les vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis en ce qui concerne les étudiants, on peut avoir aussi des pressions sur les étudiants, sur leur famille. Ça, c'est aussi quelque chose qui est
fréquemment utilisé. On a eu ces manifestations hier. ce soir, les images qui nous arrivent, c'est que à chaque lieu de manifestation, la police est quand même arrivée.
Oui, il y a rien ce soir.
Pas de heurts véritablement, non. En tout cas dans ce qui nous parvient pour l'instant sur ce qui a pu se passer ce soir en Chine, mais on a des déploiements de forces de sécurité assez massifs pour bien montrer peut-être quand même une certaine reprise en main. Et on a ce soir, Pauline, un témoignage d'un Français qui, lui, vit à
Canton, dans le sud de la Chine. Et donc, il s'appelle Alex, il travaille en Chine depuis 7 ans. Et il a d'ailleurs choisi, vous allez le voir, de parler de façon anonyme parce qu'il a été secoué par son arrestation. Justement, il a été arrêté, ça s'est passé ce week-end. Il était sorti avec des amis, justement, pour aller voir cette manifestation dont il avait entendu parler sur les réseaux sociaux. Il n'en revenait pas que ça se passe en Chine, donc il voulait s'approcher. Et lorsque, avec ses amis, la plupart expatriés, il s'est approché des barricades, eh bien, ils se sont retrouvés encerclés par une douzaine de policiers.
D'un coup, il y a une quinzaine de tabaïs, donc c'est des policiers qui sont en blanc, en combinaison anti-épidémie, en fait, et qui se sont mis autour de nous. Et là, c'était impossible de partir. On a dû répondre à beaucoup de questions, donner notre identité. Donc ils avaient toutes nos informations, ils ont regardé nos téléphones pour voir si on n'avait pas pris des photos, des vidéos. On a dû rester quand même 3 heures sur le bord de la route avant qu'on nous laisse repartir, quoi. En 7 ans, je n'ai jamais assis. Une fois, j'ai été contrôlé, on m'a demandé mon passeport. Une fois.
Donc 3 heures d'interrogatoire pour Alex, une grosse frayeur. Il est ensuite retourné chez lui pour vivre son semi-confinement parce que lui, il peut sortir de chez lui, mais il doit rester à l'intérieur de son quartier. Mais ce qu'il m'a dit ensuite, c'est qu'il ne sait pas si c'est un hasard, mais en tous les cas, dans son quartier, aujourd'hui, les mesures ont été un peu allégées. Et c'est la même chose dans quelques quartiers dans la ville de Canton. Donc on ne sait pas s'il y a une réaction des autorités ou simplement le code était passé au vert.
Bon, il y a un certain assouplissement. On a vu quand même que la police était là. On a vu des images assez violentes d'arrestation, notamment de ce journaliste de la BBC, Ed Lawrence, qui a été arrêté, frappé par la police. Si je résume ce que vous nous dites ce soir, c'est que si le régime chinois décide que c'est terminé, c'est terminé.
Allez, il y a des chances. Il y a des chances. C'est très compliqué. Décide que c'est terminé, ça passe effectivement par des quartiers verrouillés entièrement. La première personne, on l'a vu, qui sort un téléphone, elle se fait arrêter, embarquer directement. Il y a même, alors pour la petite histoire, il y avait des journalistes qui faisaient une balance des blancs hier soir à Pékin, c'est-à-dire ils ont tendu une feuille
blanche
pour qu'on règle la caméra sur du
sauf
blanc.
Que la feuille blanche, c'est le symbole des manifestants.
Voilà, embarquer, parce que la feuille blanche, tout à fait, c'est le symbole de nous sommes muets, nous sommes censurés, nous ne pouvons pas nous exprimer. Après, il y a la censure qui va marcher à grande échelle. Il y a aussi ce qu'on des trolls. Les trolls qui sont très importants, qui vont essayer de réorienter l'opinion publique, qui sont actifs sur Internet chinois, mais ce qui est intéressant, c'est aussi sur Twitter. Sur Twitter, là aujourd'hui, si vous tapez Shanghai, Pékin en mandarin, en chinois, vous cliquez sur les derniers messages, vous allez tomber sur tout un tas de sites de pubs pour des sites pornographiques, pour des jeux en ligne.
Étrangement, ça nous avait intéressé de préparer les photos. On voulait en parler dans une seconde, mais voilà, effectivement, voilà comment fonctionne la censure. C'est-à-dire que quand vous tapez l'une des villes concernées par les manifestations, ce qui se passe, c'est que votre fil Twitter est noyé sous des infos qui n'ont rien à voir, et notamment des infos porno.
Et ça, ce sont, bon, a priori, des bots chinois, donc ce sont des faux comptes. Ça pose aussi des questions aujourd'hui sur la modération chez Twitter.
La communauté chinoise, les diasporas, sont surveillées aussi par le régime chinois à l'étranger.
Oui, en particulier les Ouïghours. En particulier les Ouïghours qui sont avec, alors c'est il y a des menaces qui sont sur leur famille. On leur demande en France de fournir leurs papiers d'identité, certificat de travail, facture d'électricité parfois, le nom de leurs voisins, vraiment pour les garder sous contrôle. Et s'ils n'obéissent pas, eh bien on les menace, les familles qui sont restées au Xinjiang. Donc les Ouïghours sont les plus surveillés, en tout cas parmi les Chinois de la diaspora.
C'est pour ça que je demandais si d'une certaine manière c'était le pouvoir qui décidait de toute façon de la fin du mouvement, Elsa Vidal, parce que quand on voit ce que le pouvoir est capable de faire en termes de censure également. Et quand on a vu dans certaines villes où effectivement vous disiez qu'il y avait ce système de code vert, vous pouvez circuler normalement, orange, vous êtes sur un confinement modéré, et rouge, vous devez rester chez vous quoi qu'il arrive. Où on a vu des manifestants qui soudainement, parce qu'ils avaient manifesté, voyaient leur téléphone portable passer au rouge et donc devaient rentrer, rester chez eux.
Mais
la laisse est très courte.
Il y a un contrôle qui est extraordinairement minutieux, technologique et beaucoup plus systématique qu'en Russie. On a souvent comparé les deux régimes, mais la manière dont le régime chinois a évolué, est beaucoup plus avancé dans le technocontrôle politique, a même fait des émules au Bélarus. On a vu qu'il y avait eu des échanges de technologies et de manières de gérer la grogne sociale. Donc, on n'a pas idée, en fait, de ne serait-ce que de l'avancement, par exemple, des technologies de reconnaissance faciale en Chine qui défient le masque, défient les lunettes, défient les maquillages anti-reconnaissance faciale. Donc, si les autorités décidaient effectivement de réprimer, on pourrait aussi se retrouver face à un blackout de l'information.
Avec, vous parlez de masque, avec ce rôle qu'a pu jouer la Coupe du Monde de foot, c'est en ce moment évidemment Pauline Simonet, et qui a eu un impact politique jusqu'en Chine.
Effectivement, en tout cas, c'est ce que racontent beaucoup d'habitants, beaucoup d'internautes, même si le ras-le-bol évidemment vis-à-vis de la politique zéro Covid était toujours là, même si l'incendie à Urumqi a été le catalyseur, le fait de voir ces images de la Coupe du Monde, qui est très regardée dans toute une série de villes en Chine, ça a été comme un électrochoc pour certains, voir ces foules côte à côte, ces gens sans masque, collés, serrés lors des matchs de Coupe du Monde, ces foules de spectateurs exaltés, en pleurs, qui se jettent dans les bras les uns des autres, tout ça, eh bien, a finalement subitement disparu de certains écrans. C'est ce que nous raconte notamment ce journaliste sportif, Marc Dreyer, qui a comparé des images de la BBC et des télévisions chinoises qui retransmettaient le même match. Il a regardé et il a vu qu'au moment où il y a des images de supporters qui apparaissent dans la réalisation initiale, sur la BBC, on voit un supporter, c'est juste avant la 66e minute exactement, c'est lors du match Croatie-Canada. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit sur la télé chinoise? Le sélectionneur de l'équipe du Canada. Et ça se reproduit sur plusieurs matchs. Donc, les responsables chinois, eux, de leur côté, assurent qu'il n'y a absolument pas de censure. C'est une autre façon de faire la réalisation du match de football. Mais évidemment, ça ne va pas tromper grand monde.
Samuel.
Je pense que ce qui se passe en Chine aussi montre, au-delà de... comme ça montre la folie du gouvernement chinois, ça montre l'aberration que représente une stratégie zéro Covid. Et on a tendance un peu à réécrire l'histoire en Occident, mais on a connu cette tentation autoritaire. Longtemps après l'arrivée des vaccins, beaucoup d'intellectuels, de scientifiques et même d'hommes politiques venaient sur les plateaux, parlaient dans les médias pour militer pour une stratégie zéro Covid, expliquer que c'était la seule stratégie de sortie de crise viable. Et d'ailleurs, l'exemple chinois a longtemps été mis en avant par certains comme la bonne solution. Même l'Australie, les Australiens ont vécu pendant 2 ans ce que vivent les Chinois depuis 3 ans et tout le monde trouvait ça génial. Donc, il y a peut-être un
meilleur... Pas sûr que tout le monde trouvait ça génial.
Mais les scientifiques français l'ont prôné.
Aucun de ceux qui l'ont prôné n'a, pour l'instant, reconnu son erreur. Et je pense que ce serait bien, ce serait souhaitable que certains reconnaissent leur erreur pour qu'on se débarrasse de ces tentations autoritaires. Non, le zéro Covid, et on l'a toujours su, n'était pas une solution viable. C'était complètement incompatible avec une préservation minimale des libertés. Et personnellement, moi, je me réjouirais d'un certain
miracle. Ceux qui dénonçaient en France, les antivax, la dictature sanitaire, parce qu'on a entendu ça aussi dans les mesures de restriction. La dictature, on voit ce que c'est en Chine, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait.
On l'a, la dictature. Et la dictature, c'est notamment quand, effectivement, on modifie la diffusion on modifie la diffusion du mondial. Juste une chose, ça a été on arrive à mesurer, à quantifier le choc qu'a représenté réellement ces images du mondial de foot.
Difficile. Faut se fier aux réseaux sociaux. Finalement, on a vu des messages, effectivement, qui disent on a l'impression de vivre sur une autre planète. On découvre qu'il existe une autre planète. Donc voilà, c'est un effet qui est très efficace, finalement.
Je vous réponds, Antonin, sur l'aspect dictature sanitaire. Vous dites, dire qu'il n'y avait aucun problème de liberté en France parce qu'on ne vivait pas en dictature serait aussi absurde que de dire aux Chinois qu'il n'y a aucun problème de liberté chez eux parce qu'ils ne vivent pas en Corée du Nord. Donc c'est l'argument.
Il faut relativiser, il faut employer les bons termes au bon endroit.
Évidemment,
on n'a jamais vécu
évidemment,
nous, en France,
mais,
une dictature sanitaire.
Moi, j'ai été surpris d'à quel point l'argument « ça va, on n'est pas en Chine » a été facilement employé alors qu'il y avait quand même, il fallait quand même se soucier de la proportionnalité des restrictions de liberté. Et c'est parce qu'on se soucie de cette question, justement, qu'on n'est pas la Chine.
Le problème de Xi Jinping, c'est qu'il a dit aux Chinois, je vous propose un contrat social. Vous travaillez, vous voyagez, vous dépensez, vous aimez les produits de luxe, achetez. Et vous laissez la politique de côté. Aujourd'hui, le Covid les empêche de voyager, les empêche de dépenser, et parfois même
de travailler.
Les empêche de travailler, même on l'a vu dans les usines de téléphones portables ou de processeurs du groupe Foxconn. Donc le contrat est rompu. Et ça, évidemment, c'est très difficile. Là, on le voit parce qu'il y a les réseaux sociaux, les portables, etc. Mais en fait, il y a des milliers de conflits sociaux en Chine, régulièrement. C'est un pays, en fait, on le connaît mal, mais il y a de l'agitation sociale, régulièrement.
Oui, on fait grève, on manifeste.
Et la grande peur du régime, en fait, c'est de perdre le contrôle. Et là, c'est cela qui est intéressant, c'est, disons, c'est rare,
mais ça se produit. Il y a une perte de contrôle, au moins provisoire, totalement minoritaire. On est bien d'accord, c'est pas la révolution. Et la majorité des Chinois restent sans doute persuadés que le confinement est la meilleure protection face au Covid. L'autre problème de Xi Jinping, c'est qu'il a refusé l'avancée technologique américaine, hein, c'est-à-dire les vaccins que lui proposait, enfin que nous avons nous accepté en France. Et comme son vaccin à lui ne marchait pas, il s'est trouvé dans une situation impossible. Aujourd'hui, il en paye le prix, mais il ne faut pas négliger la capacité d'absorption du régime qui est quand même extrêmement puissant, extrêmement fort et qui a une grande tradition de gestion des mouvements contestataires, quels qu'ils soient, et qui pour l'instant, si on regarde ce qui s'est passé à Hong Kong, vous vous souvenez des manifestations monstres qu'il y avait à Hong Kong.
Et de la répression monstre derrière.
Et aujourd'hui, Hong Kong est sous la botte chinoise. Et je crois qu'il faut y faire référence pour se dire que la révolte des papillons blancs, si j'ose dire, ou de la révolte des toilettes. Vous savez pourquoi on parle de la révolte des toilettes ?
Non.
Parce que comme les Chinois ne peuvent pas s'exprimer dans la presse, dans les journaux, eh bien, ils vont dans les toilettes et ils inscrivent les slogans dans les toilettes. Et c'est comme ça que se perpétuent les mouvements pour la liberté, etc. Donc, le mouvement des toilettes ou des papillons blancs ou des drapeaux blancs, c'est comme ça, hein, je crois qu'on les appelle, eh bien, restera comme un moment important où le régime a perdu un petit peu du contrôle.
Pauline Damo.
Alors, ce qui est très surprenant, c'est que justement, l'aspect économique n'ait pas fait réagir la Chine plus tôt. On se disait peut-être cette politique zéro Covid allait durer quelques mois, mais à un moment donné, c'est tellement important pour la Chine, cette croissance économique. On le voit dans plein de dossiers, c'est prioritaire. Et là, interrogation, finalement, c'est passé au second plan.
Il y a une vraie contradiction. Ouais. Il y a une vraie contradiction, ce qui amène plutôt à penser, comme on en discutait hors plateau, qu'il y a une véritable adhésion idéologique, en tout cas des leaders, à cette politique de zéro Covid.
D'un mot encore, Baptiste Falvaux. Qu'est-ce que vous allez guetter dans les heures, dans les jours qui viennent, pour savoir si le mouvement est déjà terminé, déjà réprimé, ou si on est face à quelque chose de beaucoup plus grand?
Bon, comme tout le monde, forcément, les images qui viennent des centres-villes, les universités, quand même. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est les mouvements dans les universités, parce que pour le coup, ça nous rappelle, alors dans une moindre mesure, bien sûr, Tiananmen, aujourd'hui, depuis maintenant 30 ans, les universités, c'est quand même des endroits très policés. Très, très policés. Il n'y a pas d'agitation sociale comme on la connaît en Europe. Et donc, de voir.
Là, ça frémit.
Ah là, de voir ces vidéos dans les universités qui ont publié des communiqués. Il y a les étudiants de l'université de Pékin, de Tsinghua, qui ont publié un communiqué tout à l'heure ou hier, laissant entendre de façon d'un peu transparente qu'ils voulaient plus de démocratie, plus de vérité. De voir ce genre de mots, c'est quand même assez impressionnant.
Merci Baptiste Falvaux d'avoir été avec nous ce soir en direct. Merci à tous les six de m'avoir accompagné.